Science Chrono, Antoine Beauchamp.
En 1972 paraissait un rapport scientifique qui modélisait pour la première fois les futurs possibles de l'humanité. Le rapport Meadows a été un signal d'alarme historique et visionnaire, traduit en 35 langues et vendu à des millions d'exemplaires, qui avertissait sur les limites de notre mode de vie basé sur la croissance. Science Chrono remonte le temps des archives et vous ramène à une époque où crise de la biodiversité, changement climatique et pénurie des ressources n'étaient pas à l'agenda des sociétés humaines. Et bonjour Olivier Hamant.
Bonjour.
Bonjour, je suis ravi de vous recevoir pour cette toute première de Science Chrono. Vous êtes chercheur INRAE à l'École Normale Supérieure de Lyon, directeur de l'Institut Michel Serres. Vous avez écrit « Troisième voie du vivant » chez Odile Jacob et vous venez tout juste de faire paraître « Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant » dans la collection Tract de Gallimard. Je l'annonçais en début d'émission, c'est la toute première de Science Chrono. Je serais ravi de vous retrouver tous les samedis à 16h30 sur France Culture. Et chères auditrices, chers auditeurs, je vais vous en définir le principe. L'idée est qu'on se retrouve tous les samedis, donc pour une demi-heure dédiée aux sciences, à leur histoire, à leur évolution. Pour ça, on ouvrira chaque émission avec une archive sonore qui nous ramènera dans le passé, qu'il soit proche ou lointain, pour mettre en lumière une idée, une découverte, un débat ou une œuvre scientifique. Cet exercice nous permettra de comprendre comment se construisent les savoirs, mais aussi comment ils se transforment. Et pour cette toute première émission, on s'empare d'un travail de recherche scientifique qui faisait des projections sur le futur, notre futur, le présent actuel dans lequel nous vivons. Je vous propose donc de retourner en 1972. Un an avant la première grande crise pétrolière sortait ce rapport visionnaire intitulé « Les limites de la croissance », autrement connu sous le nom de « Rapport Meadows ». Ce travail de recherche a marqué un tournant scientifique par son approche méthodologique, mais aussi un tournant dans la compréhension de ce qui nous attendait si nous continuions sur la même voie de croissance. Plus de 50 ans plus tard, les scénarios les moins optimistes proposés par l'équipe de chercheurs responsables de ces travaux semblent se réaliser. On va donc faire un voyage dans le temps assez proche, et ce voyage, on va le faire avec vous, Olivier Hamant. Est-ce que vous êtes prêt?
C'est parti, je suis prêt.
Alors, on écoute cet extrait du journal télévisé de 13h de la radio-télédiffusion française. C'était le 13 juin 1972, soit la semaine de la parution de la traduction française du rapport Meadows, 3 mois seulement après la parution du rapport original.
Pour le club de Rome, la société actuelle est prise dans un manège qui tourne de plus en plus vite et qui nous étourdit en nous masquant les réalités. L'air est infecté par la pollution, mais étant donné le formidable élan donné à l'industrialisation et aux investissements, il deviendra bientôt irrespirable. En outre, la population augmente elle aussi de plus en plus vite, mais les terres cultivables, elles, sont limitées. Ainsi, elles sont à peine suffisantes pour nourrir 3 milliards d'hommes aujourd'hui, suffiront-elles pour 6 ou 7 milliards dans quelques années? Certes, certains pays s'enrichissent, mais plus ils produisent, plus les besoins se développent. C'est la course à la consommation. En même temps, pendant que les pays développés s'inquiètent de savoir comment ils vont utiliser leurs richesses, ou du moins comment les nuisances seront éliminées, c'est-à-dire comment ils vont mieux vivre, les pays sous-développés s'inquiètent de savoir comment ils vont survivre. Après des études qu'ils affirment scientifiques, les membres du Club de Rome lancent un cri d'alarme. L'échéance, disent-ils, est plus proche qu'on ne croit. Nous serons rapidement ensevelis sous les déchets industriels et empoisonnés par la pollution, et il est déjà trop tard pour effacer certains crimes contre la nature provoqués par les usines. Bref, si nous voulons éviter cette vision de cauchemar, il est urgent de prendre des décisions. Selon le Club de Rome, c'est immédiatement qu'il faut agir et le moyen proposé, c'est d'arrêter la croissance.
Voilà pour cette toute première archive de Science Chrono. Olivier Hamant, je n'ai pas présenté à dessein ce Club de Rome qui revient comme un refrain dans la présentation qui est faite par ce journaliste en 1972 des conclusions du rapport Meadows. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce qu'était ce Club de Rome qui faisait un peu office d'anomalie, qui a été fondé en 1968?
Oui, alors en fait, c'est un groupe d'entrepreneurs, de scientifiques, d'académiques, donc c'est un petit peu un mélange en fait, et c'est des gens qui s'intéressent à deux problèmes, l'augmentation de la démographie mondiale et la chute des ressources non renouvelables. Et en gros, ils se disent, ben, il y a un moment, les deux courbes vont se croiser, et qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est un petit peu leur problématique. Mais ça, c'est juste le Club de Rome, hein. Le Club de Rome, en fait, ils ont fait une commande à Denis et Donella Meadows, et puis deux autres collègues au MIT à Boston, pour faire le rapport. Et là, par contre, eux, c'est des analystes des systèmes, des économistes, donc en fait, c'est des vrais scientifiques, j'ai envie de dire, voilà. qui ont fait le rapport.
Et qui aboutit ce rapport, donc au rapport Meadows, à la publication en 1972. Cette commande, elle est réalisée en 1968. On peut parler peut-être de Jay Forrester, qui était un peu le patron, le parrain de cette équipe de jeunes chercheurs, de jeunes loups de la recherche, et qui était très enthousiaste tous, mais lui, il avait une spécificité, c'était que, au tournant des années 70, c'était un des pionniers de l'informatique qui n'était pas encore totalement développé.
Absolument. En fait, c'est un peu le père. En effet, c'est un peu le père fondateur de cette discipline, hein, l'approche systémique. En fait, il avait déjà fait des modèles un peu globaux comme ça, et le Club de Rome avait discuté des problèmes de démographie et de ressources, comme d'habitude. Et il se trouve que Jay Forrester était dans la boucle, et il a dit, ah bah ça, on peut faire un modèle pour ça. Et donc, mais sauf que bon, lui, il avait un peu d'autres choses à faire, et puis bon, je pense qu'il n'avait pas forcément une motivation très forte pour ce sujet-là. Et du coup, il a en fait délégué quelque part à Denis et Donella, enfin surtout Denis Meadows, de prendre ce travail en charge. Et donc, c'est eux qui l'ont développé après, entre 70 et 72. Hein. Donc, ça a été quand même assez rapide.
Hein. Ça a été rapide. Donc, on parle de Denis Meadows et Donella Meadows, ce couple de jeunes chercheurs. Denis Meadows, lui, il est physicien, si je ne m'abuse. Donella Meadows, elle est davantage tournée vers les systèmes complexes. Ils sont épaulés par Jürgen Randers et Bill Behrens, qui vont, en fait, établir ce modèle, ce tout premier modèle informatique qui va intégrer plusieurs paramètres. Est-ce que vous pourriez nous en décrire certains et nous expliquer comment ils ont créé l'architecture de ce modèle pour penser, tout simplement, j'allais dire, le futur de l'humanité?
Alors en fait, c'est un modèle tout simple. Hein. Par rapport au modèle du GIEC actuel, on est vraiment à des années-lumière. Hein. Il y a 180 paramètres dans le modèle des Meadows. Et c'est tout simple. En gros, l'idée, c'est de se dire, ben, s'il y a plus d'alimentation, il y aura plus de population. S'il y a plus de pollution, il y aura moins de population. Donc c'est des règles aussi simples que ça. Et donc il y a des flèches un peu partout, voilà, tout est connecté. Et dedans, il y a des aspects très quantitatifs, mais il y a aussi des aspects très qualitatifs. Par exemple, la perception des pollutions, l'acceptabilité sociale de la pauvreté, des choses comme ça, quoi. Donc c'est assez un petit peu fait à la main, hein, on va dire, mais il se trouve que bah, ce modèle-là, il a quand même été assez costaud, quoi. Il a produit des résultats assez pertinents, bah, comme on le verra actuellement, quoi, mm-hmm. On va dire. Mais par rapport au GIEC, ça n'a rien à voir, hein. Un modèle, les modèles qui sont discutés au GIEC, c'est des modèles avec des dizaines de millions de paramètres, donc il faut bien se rendre compte de la différence d'échelle.
Hein. Sur quel type de données ils se sont reposés et comment ils ont pu tester ce modèle? Parce qu'ils ne sont pas partis la fleur au fusil en se disant « bon, bah, c'est bon, notre modèle est robuste, il va fonctionner ».
Oui, bien sûr. Alors, en fait, ils se sont basés sur les données accumulées depuis 1900. Donc, en fait, ils voyaient déjà des courbes, ils avaient déjà toutes les données sur entre 1900 et 1970. Donc, ils voyaient l'évolution de la démographie, les ressources, les pollutions. Donc, tout ça, ils avaient les données. Et ils ont fait un modèle avec les petites flèches partout, là, pour dire l'un influence l'autre. Et ce qui a été très fort, c'est évidemment, c'est d'après toutes ces interactions, ils ont fait des prédictions pour tout le 21e siècle. Donc ça, le modèle, il s'arrête en 2100. Donc ça couvre de 1900 à 2100, avec la partie 1970 qui est déjà réalisée.
C'est très important de parler de prédiction, non pas de prévision, parce que c'était aussi très important pour ces chercheurs de ne pas se poser comme des voyants, mais ils avaient posé plusieurs scénarios pour des futurs possibles de l'humanité. Alors quelles sont ces projections futures réalisées par le rapport Meadows qui sont assez bouleversantes quand on les relit aujourd'hui en 2023 parce qu'elles sont assez proches de notre réalité.
Oui, alors c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, moi, je conseille aux auditeurs de lire le rapport. Hein. Ça se lit très bien. Ça se lit comme un roman et c'est très bien écrit. C'est très pédagogique, d'ailleurs. Mais donc, il y a 12 scénarios. Et donc, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, il y a trois grands scénarios qui sont intéressants. Il y a le scénario 1, qui est business as usual, on va dire, enfin, où on ne change rien, grosso modo. Et donc, qui prédit quelque chose de tout simple. C'est un moment de basculement. C'est-à-dire que, en gros, et ça, c'est pas une grande surprise. Hein. C'est-à-dire que si on continue sur la croissance, il y a un moment on atteint les limites planétaires, on dépasse les limites planétaires et le système se retourne. On dépasse et donc on atterrit, on redescend. Et donc ça, ce scénario 1, la surprise en fait, c'est que le moment du basculement, il est entre 2015 et 2030. Donc
pile,
on est en plein dedans.
Pile, hein, on est pile le scénario. Ouais.
On n'est plus dedans, exactement. Et les deux autres scénarios sont aussi sur... Enfin, les deux, il y en a plein d'autres, hein, mais les deux scénarios que je trouve particulièrement pertinents, c'en est un où on a accès à de nouvelles ressources. Donc, on peut, par exemple, penser aux ressources des fonds marins, donc avec un sujet d'actualité.
Question aussi éminemment actuelle, oui.
Voilà, exactement, on a accès à des ressources plus lointaines. Alors là, ce que dit le modèle, c'est très simple, c'est que ça ne change pas la date du basculement, mais par contre, ça fait beaucoup plus de pollution. Donc, on aimerait que les décideurs politiques lisent ce modèle. Et le troisième scénario qui me paraît intéressant aussi, c'est le scénario avec des technologies propres. Donc, ce qui est un petit peu aussi le scénario qu'on est en train de faire actuellement, où là, ce qui se passe, en fait, c'est que ça décale la date du basculement, mais le basculement a toujours lieu. Et il a toujours lieu au XXIe siècle, et plutôt dans la première moitié du XXIe siècle. Donc c'est quand même ces scénarios-là, ils nous disent quelque chose. Hein. Ils nous disent que le basculement est inévitable et qu'il va avoir lieu à courte échéance.
On parle de basculement et non pas d'effondrement.
Oui, moi je préfère parler de basculement parce que c'est... Alors le mot collapse est dans le rapport au Club de Rome hein, quand même, mais si c'est un vrai collapse, on arriverait à zéro en population humaine instantanément. Hein. Ça serait ça un effondrement. Alors que là c'est un basculement, c'est-à-dire qu'on change de civilisation. Mmh. C'est une civilisation qui ne fonctionne plus avec la croissance, qui consomme moins, qui produit moins de choses, mais c'est pas pour ça qu'elle vit moins bien. Hein. C'est juste une autre façon de vivre.
J'aimerais
qu'on bascule vers autre chose.
J'aimerais, comme Science Chrono va s'intéresser toujours à l'archive et bien sûr au contexte historique dans lequel se produit le savoir scientifique, qu'on situe quand même la parution de ce rapport Meadows dans ce début des années 70, qui était une époque où il y avait 3,6 milliards d'êtres humains sur Terre. Aujourd'hui, on est quasiment 8 milliards. À l'époque, la croissance n'était pas du tout remise en question. À l'époque, il n'y avait pas de question autour de la consommation à outrance d'énergie fossile. Comment est-ce que ce rapport, qui a quand même fait l'effet d'une bombe au moment de sa parution, a été reçu? Et est-ce que ça a été un électrochoc mondial? Ou bien est-ce que finalement, il est rapidement devenu marginal?
Ah ben, un petit peu les deux. En fait, ça a été un électrochoc mondial parce que quand même, au début des années 70 ou fin des années 60, le sujet des pollutions devient très fort. Il y a le bouquin de Rachel Carson sur le printemps silencieux, sur le DTT. Il y avait la pollution au mercure au Japon. Il y avait eu quand même des exemples assez forts de pollution forte. Il y a eu Seveso, c'était en 76, mais bon, c'est quand même un peu dans toute cette période-là de pollution chimique très forte. Et il y avait eu aussi sur la biodiversité déjà des avancées. L'UICN, par exemple, qui est créé en 1948, hein, c'est même encore plus ancien. Donc, en fait, à cette époque-là, on commence à s'inquiéter de la question environnementale, mais plus sous le plan de la biodiversité et sur le plan des pollutions. Les années 70-71, c'est là où on crée la plupart des ministères de l'environnement dans le monde entier. C'est là où, aux États-Unis, on crée l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement. Donc, en fait, il y a quand même un intérêt parce qu'on se rend compte que les pollutions sont très fortes. Par contre, il n'y a pas du tout la question du climat. La question du climat, la première conférence sur le climat, c'est en 79, et les effets du climat qui sortent de la marge d'erreur, c'est dans les années 80 que ça commence à venir. Quoi. Donc en fait, à cette époque-là, on ne parle pas trop du climat.
Et c'est intéressant, parce que le changement climatique est totalement absent du rapport Meadows, qui n'enlève en rien que ses conclusions sont pertinentes et parlantes aujourd'hui. Vous parliez de cette considération pour l'environnement, ce terme qui était très à la mode dans les années 70. Le premier sommet global des gouvernements mondiaux sur l'environnement se tient à Stockholm en 72, au moment de la publication du rapport Meadows, et je crois que le chef du gouvernement suédois à l'époque lui-même est très intéressé par ces questions. Pourtant, il n'y a pas de décision politique qui semble être prise dans l'immédiat, et surtout en 73, il y a un des tournants du XXe siècle occidental, on va le dire, en tout cas des pays développés, c'est cette crise pétrolière qui crée un vent de panique et qui va reléguer ce rapport Meadows un petit peu aux oubliettes.
Absolument, et même dans le monde académique, hein, c'est ça qui est dingue. Hein. C'est, donc en 73, crise pétrolière, et là, d'un seul coup, on choisit la fiction à la réalité. Hein. C'est qu'en fait, d'un seul coup, on va embrasser une forme de néolibéralisme naissant. Hein. Pinochet, c'est 73. Milton Friedman, il a son prix Nobel en 76.
Milton Friedman, après, c'est Reagan, Thatcher, le chantre de l'ultralibéralisme, Milton Friedman.
Exactement. Donc, oui. En fait, donc, on a changé d'époque à ce moment-là, et vraiment, la crise pétrolière de 73, c'est un moment qui a complètement enterré le rapport. Et, enfin, c'est dommage, hein, parce que quelque part, il y a 50 ans, et il y a tout dans ce rapport. Hein. C'est extrêmement pertinent. Hein. Et encore une fois, ça se lit très bien. Il montre tout ça. C'est même l'approche systémique est toujours très pertinente. Donc, c'est un peu dommage. On a raté quelques années. Là.
On a raté le coche, et eux-mêmes, les meneurs de ce rapport Meadows ont dit qu'ils étaient arrivés 20 ans trop tôt et que finalement leurs conclusions n'ont pas pu être audibles pour une classe politique qui se projetait et puis qui se projette peut-être encore toujours dans le court terme. Il faut bien se garder par ailleurs de dire que les conclusions ont été univoques. Il y a eu quand même des gens qui s'en sont emparés de ces conclusions, qui s'y sont intéressés. Moi, une question que je souhaitais vous poser, c'est comment la catégorie, la famille des scientifiques s'est intéressée à ces questions-là. Est-ce qu'il y a eu des réactions du côté des biologistes, des physiciens? Est-ce que finalement à cette époque l'interdisciplinarité existait? Est-ce qu'il y avait des porosités entre disciplines? Est-ce que voilà, il y a eu dans le monde académique en tout cas une réaction à cette publication du rapport Meadows?
Alors il y a eu une réaction, mais qui était assez, moi je trouve, enfin, peut-être un peu critique, mais un peu faible. Il y a eu des choses, hein. Par exemple l'agroécologie qui naît au début des années 80, notamment en Amérique du Sud, quelque part elle naît un petit peu de ce rapport aussi. Hein. C'est, on change l'agriculture, c'est un changement de civilisation, ben voilà, en agriculture ça veut dire l'agroécologie. Mais j'ai envie de dire que dans le monde scientifique, c'était quand même très très prudent sur ces questions-là. Il y a eu des scientifiques qui sont engagés à fond dans ces questions-là, mais c'est aussi, par exemple, si je prends pour la biologie, c'est le moment où démarre la biologie moléculaire, où on a plein d'espoir sur les nouvelles technologies, et du coup, on se dit, on va résoudre le problème avec les technos, quoi.
La technologie. Ouais,
technologie. C'est pas pour tout le monde. Hein,
mais... Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il faut jamais décorréler la recherche scientifique des financements politiques, et que les années 70, la conjoncture économico-politique, on va dire, orientait la recherche vers des objectifs stratégiques de performance économique, et pas du tout de développement durable. Restez avec nous parce qu'on va, dans un instant, bien sûr, continuer cette discussion autour du rapport Meadows dans Science Chrono, et on va parler de la postérité du rapport avec vous, Olivier Hamon.
France Culture, Science Chrono, Antoine Beauchamp.
On poursuit ce baptême du feu de Science Chrono avec vous, Olivier Hamon, et on parle de cette postérité que j'annonçais du rapport Meadows, paru en 1972, qui a connu plusieurs réévaluations, réécritures, sans que les conclusions de fond changent fondamentalement. Pourquoi, selon vous, ce groupe de Dennis Meadows, de chercheurs du MIT, a poursuivi ce travail de réévaluation de leur modèle et de réécriture de leur synthèse? Je rappelle que le rapport Meadows est reparu en 92 dans des versions augmenté en 2004 ensuite, et puis finalement la dernière en date en 2012.
Alors, c'est aussi super intéressant de voir un petit peu leur histoire de vie à Dennis et Donella Meadows, parce qu'en fait, quand ils ont fait le rapport qui prédisait, enfin, c'est un petit peu cette trajectoire, ils se sont tout de suite rendu compte que même au niveau du Club de Rome, il y avait des résistances. C'est que le Club de Rome avait des résistances pour comprendre un petit peu ce que ça voulait dire. Est-ce que c'était vraiment vrai? Est-ce qu'il y avait un petit peu des doutes? Et puis après, ils ont eu la vague de résistance des économistes, notamment, sur leurs prédictions. Et donc, dès 73, ils ont en fait pris la décision consciente d'arrêter les recherches pour faire que de la pédagogie.
C'était très novateur. Ça, c'est super novateur pour des chercheurs des années 70 déjà, de penser à la vulgarisation d'un propos scientifique qui n'est pas forcément accessible à tout le monde.
Oui, ça c'est extraordinaire. Et alors, c'est là pour le coup, Donella Meadows a eu un rôle essentiel, parce que elle était plutôt destinée à une carrière de biophysicienne en 70. Ils ont fait un voyage tous les deux du Sri Lanka en Angleterre, en voiture, en routard, quoi. Et là, ils ont vu tous les problèmes sociaux, la pauvreté, et vraiment, ils se sont dit, on peut pas laisser faire ça, quoi. Et quand ils ont fait le rapport le Meadows, en fait, ce qui a suivi après, c'est qu'ils se sont dit, il faut qu'on convainque les décideurs, il faut qu'on change le monde, quoi. Et ils se sont dit, c'est la pédagogie avant la recherche.
Et là, dans ce groupe, donc, c'est vrai qu'on parlait de Jürgen Randers, lui qui a continué une carrière de chercheur, de directeur d'école d'économie dans son pays, en Suède. En Suède ou en Norvège, je ne sais plus, je crois que c'est en Norvège. Bill Behrens, lui qui a voulu appliquer à la lettre les conclusions du rapport et qui est devenu agriculteur biologique et donc qui s'est retiré complètement du monde de la recherche. Et effectivement, ce couple, Donella Meadows, qui avait été la plume capitale de ce rapport Meadows et Dennis Meadows, eux ont continué vers la pédagogie. Ce rapport Meadows, il a changé progressivement aussi de titres. En 1972, il s'appelait The Limits to Growth, les limites de la croissance, les limites à la croissance. En 1992, dans sa première réédition, il s'appelait Beyond the Limits, au-delà des limites. Alors, expliquez-nous ce qui a changé dans cette première réédition.
Mais en fait, quand ils écrivent les limites à la croissance, il est encore possible de pas trop dépasser les limites planétaires. Alors, sachant quand même que, si on regarde les chiffres, la première année où on a dépassé les limites planétaires, c'est 1971. Le premier jour du dépassement, c'est Noël 1971. Et depuis ce jour-là, chaque année, nous dépassons de plus en plus tôt. Le jour du dépassement est de plus en plus tôt. Donc, on accumule une dette comme ça depuis des années. Donc ça, c'était à l'époque, en 72, il y avait encore moyen de dépasser un petit peu et de revenir à la base, on va dire. Quand ils l'écrivent plus tard, 20 ans, 30 ans plus tard, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a vraiment dépassé les limites planétaires. Et donc, on est au-delà de la pénurie des ressources. C'est-à-dire qu'on est en train de faire des dettes pour les générations futures. Et donc, forcément, quand on dépasse à ce point-là, eh ben, forcément, on va redescendre, quoi. C'est ce que dit Dennis Meadows quand il fait des conférences, d'ailleurs. Il dit, on va redescendre. On est en train de redescendre en ce moment-là.
Et ce qui est intéressant dans les prises de parole de Dennis Meadows, c'est qu'il n'est pas du tout spectaculaire dans ses prises de parole. Il est très pragmatique, très scientifique. Il dit, voilà, c'est mécanique en fait. Là, on est lancé sur une trajectoire qui, pour telle cause, donnera tels effets, quoi qu'il arrive.
Exactement. Alors ça c'est la force de l'approche systémique, c'est que c'est quand même un pouvoir prédictif assez fort. Alors c'est pas l'alpha et l'oméga de tout évidemment, mais ça donne un petit peu le squelette quoi de la trajectoire. Et ben cette trajectoire, alors il y a Graham Turner, un Australien qui avait quand même refait tourner le modèle à la fin des années 90 et qui avait trouvé que on suivait le scénario 1, le scénario business as usual en 2000. Donc ça c'est une version un petit peu indépendante. On peut pas dire que ce sont les Meadows qui ont refait tourner leur modèle. C'est quelqu'un d'autre qui est venu indépendamment, qu'a fait tourner le modèle, et en 2000, on suit exactement la trajectoire du scénario standard. Donc, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le rapport Meadows a eu beaucoup plus, a été un petit peu revivifié, on va dire.
Et en 2012, Dennis Meadows disait il y aura plus de changements sociaux, économiques et politiques dans les 20 ans à venir que durant le siècle passé, sachant que le 20e siècle a quand même été assez peu épargné par les événements importants. On est à mi-parcours de ces 20 ans, Olivier Hamant. Est-ce qu'une nouvelle fois, il aura raison? Est-ce que vous voyez dans cette prédiction de 2012 déjà des éléments palpables autour de nous qui confirment à nouveau les propos et les pensées de Dennis Meadows en lien avec son modèle?
Ah oui, alors il y en a plein. Donc, on peut citer les 9 millions de morts annuelles dues à la pollution en 2022. Donc, ça suit exactement ce que prévoyaient les Meadows. On peut penser au Pakistan qui devient un fleuve. Le pays entier devient un fleuve en 2022 aussi. Les méga-feux canadiens, c'est à peu près la surface de la Belgique et des Pays-Bas qui a été brûlée. Enfin, donc, faudrait vraiment être aveugle pour pas voir qu'on est en train de vivre des choses extraordinaires au sens littéral du terme. Mmh. Mais moi, alors, pour le coup, je vais un petit peu plus loin, à vrai dire, parce qu'il me semble que, par rapport à ce que dit Dennis Meadows, c'est en effet, on est en train de vivre des bouleversements assez considérables. Mais pour moi, c'est même le changement de civilisation qu'on est en train de vivre, il est encore plus radical que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait depuis très longtemps qu'on est dans le contrôle, dans l'optimisation, dans la domestication, si on remonte au début du néolithique. Et là, on a perdu le contrôle. Notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. Et donc, il va falloir inventer une civilisation où on lâche prise, où on n'est plus dans le contrôle. Et donc, c'est quelque part la fin du néolithique. Michel Serres l'avait dit aussi à sa manière. Mais donc, c'est un changement de civilisation hyper profond qu'on est en train de vivre en ce moment.
Olivier Hamant, est-ce qu'on peut dire que dans ce rapport Meadows qui acte finalement ce changement civilisationnel qui est en train de s'opérer, se développent des concepts comme le concept de décroissance ou bien se mettent en lumière des concepts comme la résilience? Est-ce que ça aussi, c'est des notions qui sont en germe ici?
Oui, alors c'est ça qui est extraordinaire aussi dans la sémantique. Donc, par exemple, si je prends le développement durable, qui est un mot, donc c'est le rapport Brundtland de 87, qui dit on va continuer le développement, mais on va quand même faire gaffe à ce qu'on fait, donc on fait du développement durable. Bon, ça a bien marché, on est encore dedans actuellement, mais ça a été remplacé progressivement par la résilience. Et alors, juste le passage de développement durable à résilience, ça dit des choses quand même. C'est-à-dire que dans le développement durable, on ne tombe pas, on continue sur une pente croissante. Quand on passe à la résilience, ça veut dire qu'on accepte qu'on va tomber. Et donc, dans la résilience, on tombe et on se relève. Alors, bon, pour moi, je suis assez critique aussi sur la résilience parce que ça peut être très responsabilisant, ça peut un petit peu fataliser le désastre, on va dire, ou délégitimer les résistances, comme dirait Thierry Ribaud. Et donc, c'est pour ça que moi, je parle plutôt de robustesse parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer dans le, enfin, à mon avis, ce qui va se passer dans le siècle qui vient, c'est plutôt ces fluctuations vont être là. Il va falloir apprendre à vivre dans un monde fluctuant et du coup, il va falloir apprendre des moyens, des manières d'être stable, d'être viable dans un monde qui change tout le temps.
Et c'est en ça que c'est très intéressant de lire votre tract Gallimard, Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant, parce qu'on voit des travaux comme celui mené par Denis Meadows, Donella Meadows, Jürgen Randers et Bill Behrens. Ce qui est très intéressant dans votre livre, donc, c'est qu'on voit la postérité de ces travaux-là de recherche et leur prolongement finalement dans d'autres domaines que celui de l'économie, de la démographie. En tous les cas, je vous remercie beaucoup Olivier Hamand d'avoir accompagné ce baptême du feu de Science Chrono. Je rappelle donc votre texte Antidote au culte de la performance qui vient de paraître dans la collection Tract Gallimard. Vous qui nous écoutez, je ne saurais que trop vous conseiller par ailleurs la lecture des limites de la croissance rééditée l'an dernier aux éditions Rue de l'Échiquier pour continuer dans cette réflexion autour du progrès, de la croissance, de la capacité de l'humanité à ne pas se projeter dans le long terme. On va aussi vous renvoyer sur la page de Science Chrono à des épisodes de La Science CQFD de Natacha Triou et de cette autre très belle émission La Méthode Scientifique animée par Nicolas Martin qu'on salue et sans qui on ne serait sans doute peut-être pas là. Heard Somebody Whistle de J.J. Johansson, c'est notre clin d'œil musical aux whistleblowers, aux lanceurs d'alerte, dont font partie les chercheurs qui ont produit le rapport Meadows. Science Chrono, la première, c'est déjà fini. Cette émission n'existerait pas sans l'aide de Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Mariam Ibrahim et à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Arnaud Planson pour son aide dans la recherche d'archives. À la technique aujourd'hui, c'était Dalia. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono. I woke up awfully early. Something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. I heard somebody whistle. To stop and listen. Surrounded by the city noise, machines and screaming cars. A tiny sound my attention caught out from a crowded bar. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. I heard somebody whistle. Stop and listen. I try to sit and compose. It happened just the other day. When through the open balcony door, I was transported away.